Bonjour, très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau numéro d'International avec RFI et le journal Le Monde. Un numéro consacré aujourd'hui au conflit qui agite le monde. Notre invité est un ancien diplomate, il connaît bien les Nations Unies, il a été secrétaire général adjoint des opérations de maintien de la paix, c'est Jean-Marie Guéhenno. Tout de suite pour ouvrir ce magazine des voix de femmes, elles ont été enregistrées à l'occasion d'une campagne des Nations Unies en faveur de l'égalité homme-femme.
Je me considère égale à l'homme. Car dans la vie, on lutte ensemble. On cherche ensemble.
L'homme et la femme égaux ?
La femme est bien supérieure.
C'est vrai, non ? Sans la femme, il n'y a pas de vie. Sans la femme, il n'y aurait rien. La mère, c'est la matrice. Qu'on le veuille ou non.
Bonjour Jean-Marie Guéhenno.
Bonjour.
Ce document que l'on vient d'entendre, c'est la communication des Nations Unies. Vous avez signé dans un journal canadien, il y a quelques jours, un billet pour maintenir la paix. Nous avons besoin de plus de femmes. Vous écrivez regretter que les femmes soient très peu représentées aux Nations Unies, notamment sur le terrain. Vous évoquez aussi la question des abus sexuels commis dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Pourquoi ce billet maintenant? Est-ce qu'il fait écho à toutes ces révélations que l'on a entendues ces dernières semaines sur la condition des femmes et notamment sur le harcèlement?
Je crois que Guterres a décidé d'en faire une priorité. Je pense que si on ne martèle pas le message, on n'avancera pas. Le rapport entre les hommes et les femmes, c'est un indice de la violence ou de la non-violence dans une société. C'est vraiment quelque chose de très important pour comprendre la dynamique d'une société. Et dans les situations de conflit, comme au fond le tissu social s'est déchiré, c'est encore plus important, parce que si ce rapport est un rapport d'exploitation, de violence, à ce moment-là, au fond, la paix s'éloigne.
Et pourquoi un tel retard des Nations Unies, justement, dans la représentation des femmes au sein de ces instances? Il n'y a jamais eu de femme secrétaire général des Nations Unies.
Non, on avait pensé que le nouveau secrétaire général serait probablement une femme. Ça n'a pas été le cas, mais je crois que Antonio Guterres veut compenser cela en assurant que, au niveau de décision, il y aura un équilibre, une parité entre hommes et femmes. Je crois que les Nations Unies, elles reflètent un peu le retard des États membres qui la composent. Et dans tous les pays de la planète, à quelques exceptions près, les hommes continuent de dominer.
De dominer. Alors, avant de poursuivre, Jean-Marie Guéhenno, je vous propose ce focus vous concernant. Il est signé May Valo et Séverine André.
La guerre, c'est la mort des autres. On ne la laisse durer que parce que ce sont les autres qui la font et qui en meurent. Voici ce que disait de la guerre votre père, Jean Guéhenno, homme de lettres, officier d'infanterie pendant la Première Guerre mondiale, puis résistant en 1940. Est-ce lui qui vous a convaincu de vous engager au service de la paix? Vous la servirez au plus haut niveau lorsque Kofi Annan vous nomme secrétaire général adjoint de l'ONU en charge des opérations du maintien de la paix à l'aube du nouveau millénaire. À New York, vous conservez l'un des postes les plus prestigieux des Nations Unies pendant 8 ans, une longévité exceptionnelle. Durant cette période, les effectifs des casques bleus ont plus que triplé.
Le désir de déployer des casques bleus peut sembler la solution la plus simple. Mais sans accord politique, il y a un grand risque que ces casques bleus ne règlent pas le problème.
La crainte de l'enlisement, comme au Liban, où les casques bleus sont présents depuis mars 1978, ou en République démocratique du Congo, depuis près de 20 ans. Vous reprenez du service à l'ONU en 2012 avec la guerre en Syrie. Vous exhortez alors la communauté internationale à agir avant qu'il ne soit trop tard. 15 résolutions et 11 vétos en 5 ans n'ont rien changé. Au début de cette année, vous mettiez en garde un Donald Trump, adepte, lui, de la seule méthode forte contre les djihadistes du groupe État islamique.
L'idée de seulement les détruire est mauvaise.
Mais ce sont les armes qui ont fait reculer le groupe État islamique en Syrie, comme en Irak. Jean-Marie Guéhenno, à la tête depuis 2014 de l'International Crisis Group, spécialisé dans la prévention et la résolution des conflits meurtriers, vous n'avez pas renoncé à être un ambassadeur, un messager de la paix, pas simple dans ce monde de chaos.
Jean-Marie Guéhenno, Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayad du journal Le Monde nous ont rejoints. Alors, vous insistez toujours sur la nécessité de mettre en œuvre des solutions politiques, mais ce qui a fait la différence, comme on vient de le voir dans ce petit focus, ce sont bien les armes en Syrie. Il n'y avait pas d'autre voie possible ?
Non, de temps en temps, effectivement, la paix, elle s'établit par la victoire d'un camp sur un autre. Je crois que c'est plutôt l'exception que la règle. Et dans le cas syrien, oui, il y a une sorte de paix qui se profile à l'horizon, mais je doute qu'il y ait une vraie stabilité en Syrie qui soit fondée sur l'écrasement d'une partie du pays. Ça ne tiendra pas. Hein. Mais je pense qu'il faut des compromis.
Mais du coup, aujourd'hui, lorsque les Américains disent on va rester sur le terrain jusqu'à ce que les pourparlers de paix progressent, qu'est-ce que vous en pensez? Les Syriens répondent, pas question, vous êtes venus combattre Daesh, maintenant vous rentrez chez vous. Comment est-ce qu'il faut réagir? Est-ce qu'il faut rester, là, pour l'instant, la coalition? Est-ce qu'elle doit rester encore en Syrie?
Les Américains au Moyen-Orient, depuis l'invasion de l'Irak, et même avant, mais enfin, en particulier après l'invasion de l'Irak, ont une image très très mauvaise auprès des populations. Ils compromettent leurs alliés. Et je pense que c'est ce qu'on entend dans la voix des Syriens. Aujourd'hui, ce qu'il faut essayer de faire, à mon avis, c'est d'avoir des cessez-le-feu locaux et d'essayer de faire baisser la tension régionale entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Et beaucoup des clés de la paix en Libye dépendent de ce qui se passera entre l'Iran, l'Arabie saoudite et la Russie.
Jean-Marie Guénaud, je voudrais revenir un peu quand même sur la guerre contre Daesh. On a vu le niveau de destruction de villes comme Raqqa ou Mossoul. On a l'impression que personne ne proteste, que c'est normal, qu'il n'y a pas d'enquête, qu'il y a eu des dizaines de milliers de morts de civils du fait des combats et notamment des bombardements de la coalition. Est-ce que ICG a vocation, par exemple, à tirer la sonnette d'alarme? Est-ce que ces populations civiles-là ne sont pas défendables?
Absolument. Nous pensons que les solutions militaires ne sont pas la solution à la question du terrorisme. Daesh, il est écrasé militairement. Il ne va plus contrôler de territoire. Mais après ce que vous décrivez, après les bombardements, après les images qu'on voit de villes qui ressemblent à Dresde en 1945, qui sont des champs de ruines, s'imaginer que la destruction des vies et aussi du tissu social que cette manière de faire a produit, d'imaginer que ça va créer une société apaisée, non. Et donc après, on a eu Al-Qaïda, on a dit Al-Qaïda c'est fini, Al-Qaïda n'est pas du tout fini. En Daesh, on dit maintenant l'État islamique c'est fini, c'est pas fini, on aura Daesh 3, on aura Daesh 4, tant qu'on ne traite pas les questions de fond qui déchirent ces sociétés.
Parce que ce qui se passe sur le terrain en ce moment, c'est qu'il y a des zones, dites des zones de désescalade, oui, du conflit, qui en fait, où des populations civiles, supposées être proches d'une opposition à Bachar al-Assad, subissent de plein fouet les bombardements des forces du régime. C'est ce qu'on a vu ces derniers jours, notamment à la Route à Est, à côté de Damas. Donc, dans ces cas-là, est-ce que vous pensez que c'est le moment, déjà, pour les troupes étrangères de se retirer ?
Non, je ne le pense pas, mais je pense surtout que, s'agissant notamment des Turcs, qui eux ont un intérêt direct sur ce qui se passe en Syrie, les Turcs ne vont pas laisser le champ libre aux Iraniens et au régime syrien soutenu par les Iraniens. Donc, d'une certaine manière, cette question est presque académique, parce qu'en réalité, le jeu sur la Syrie, maintenant, il va se jouer entre les puissances autour qui ont un intérêt direct dans la situation syrienne.
Mais alors, toujours sur la Syrie, mais ce qui concerne les Nations Unies, il y a quelques jours, jeudi dernier, la Russie a de nouveau mis son veto au renouvellement du mandat de la commission d'enquête des Nations Unies sur l'utilisation d'armes chimiques en Syrie pour protéger en quelque sorte Damas. C'est le 11e veto en 6 ans. L'ONU est impuissante concernant ce conflit. Cela relance une fois de plus le débat sur l'utilité des Nations Unies. Hein. Alors, vous ne croyez pas à une réforme du Conseil de sécurité? Qu'est-ce qui peut être fait pour que les Nations Unies puissent retrouver une voix dans ce conflit?
Dans les conflits géostratégiques, c'est très difficile pour les Nations Unies d'avoir un espace politique ou agir. Dans les conflits qui sont, je dirais, du second rayon, mais qui peuvent, en termes de vies humaines, compter beaucoup, les Nations Unies ont un plus grand rôle à jouer. Mais s'agissant de la Syrie, je crois que la Russie a fait un choix stratégique que si le régime de Bachar al-Assad s'effondrait, ce serait le chaos en Syrie, ce serait un chaos menaçant pour la Russie. Donc elle a décidé de faire tout ce qu'il fallait pour que ce régime ne s'effondre pas. Cela dit, je crois que les Russes savent que Assad ne peut pas vivre, ne peut sans doute pas complètement écraser ses adversaires. Et là, il y a éventuellement un décalage entre la position de la Russie et celle de l'Iran.
Donc,
il y a moins d'idéologie côté
d'accord.
russe.
Mais inefficacité côté totale donc des Nations Unies sur ce dossier syrien.
Quand le Conseil de sécurité est divisé, les Nations Unies ne peuvent pas aller plus loin que les membres permanents du Conseil, malheureusement.
Mais Jean-Marie Gaynaud, alors soit il y a trop d'enjeux, comme en Syrie, soit il n'y en a pas du tout, comme au Rwanda. Et on n'a pas empêché non plus un génocide, 800 000 morts, Tutsi ou tout modéré en 94. Je sais que je mélange un peu tout, mais pour le grand public, les Nations Unies, en fait, ça sert à quoi ?
Moi, je vous dirais que entre d'abord le Rwanda, c'était en 94. Je pense que les Nations Unies ont fait du chemin depuis, et que si vous demandez aux populations du Mozambique, du Cambodge, de la Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Sierra Leone, pour prendre quelques exemples dans différents continents, elles vous diraient que les Nations Unies ont fait la différence entre le désastre et une vie qui n'est pas parfaite, mais qui est bien meilleure que ce qu'elles avaient avant l'intervention des Nations Unies. Donc les Nations Unies, et le maintien de la paix aux Nations Unies, c'est toutes les nuances du gris. Malheureusement, on voudrait que ça soit le cheval blanc qui règle tout. Non. Mais ça fait la différence, ça fait une différence, la différence entre la vie et la mort pour un certain nombre de gens. Même dans un cas qui est un échec des Nations Unies, la République démocratique du Congo, moi, un pays auquel je suis très attaché. Aujourd'hui, sur le plan politique, rien n'est réglé en République démocratique du Congo. Et donc, d'une certaine manière, c'est un grand échec des Nations Unies. En même temps, on ne peut pas dire que la mission des Nations Unies, qui a coûté beaucoup d'argent depuis 17 ans qu'elle est déployée en RDC, on ne peut pas dire que cette mission n'a rien fait. Moi, je me souviens très bien de la menace de génocide en Ituri en 2003. Et on a échappé, à ce moment-là, à des violences extrêmes. Et donc pour les gens qui aujourd'hui sont en vie en Ituri, qui auraient perdu la vie si les Nations Unies n'avaient pas été là, c'est une vraie différence. Mais c'est vrai, vous avez raison, les Nations Unies n'apportent pas la paix s'il n'y a pas aussi sur le plan local...
Une dynamique.
Et donc concrètement, Jean-Marie Gaynaud, ce que vous dites là à propos du conflit syrien, pour terminer là-dessus, c'est que les discussions qui vont reprendre à la fin du mois, le 28 novembre, sous l'égide des Nations Unies à Genève, en fait, vous pensez que c'est peine perdue ?
Pas tout à fait, parce que je pense que ce qui est en train de se passer, c'est effectivement de nouveaux rapports de force ont été établis sur le terrain. Et donc, par rapport à ces rapports de force, il faut qu'il y ait un emballage politique, en quelque sorte. Et il faut essayer de faire en sorte que les négociations entre ceux qui ont des fusils, ce qui s'est passé beaucoup à Astana sous l'égide essentiellement russe, et ceux qui ont une voix politique, ce qui se passe à Genève, il faut que ces deux négociations se rencontrent. Et on a besoin de structures politiques. Et même ceux qui ont compté sur la victoire militaire savent qu'à la fin des fins, il faudra bien qu'il y ait des accords politiques. Donc je crois que ces négociations, elles vont pas bouleverser malheureusement la phase de la Syrie, mais elles peuvent être une petite étape modeste sur le chemin de la paix en Syrie. Paix très imparfaite.
Finissons avec le dossier syrien. Pour les spécialistes de la guerre, souvent, pour mettre fin à un conflit, il faut savoir négocier. Hein. Et je voudrais qu'on regarde ensemble et qu'on écoute ce petit sujet sur ce document qui a été réalisé suite aux révélations de nos confrères de la BBC.
Quelques heures avant la chute de Raqqa, au milieu des ruines, un accord est négocié entre les deux parties. D'un côté, les combattants kurdes et arabes soutenus par la coalition. De l'autre, les hommes de l'État islamique. Au terme de ce pacte, des soldats de Daesh et leurs familles sont évacués par camion. Cela permet d'éviter d'autres combats sanglants et donc d'épargner des milliers de civils. La BBC a retrouvé les chauffeurs de ces camions. Leurs témoignages montrent que le nombre de soldats de Daesh évacués parmi les civils fut beaucoup plus important que ce qui avait été dit. 250 environ, dont des combattants étrangers.
Il y avait 47 camions, 13 bus, et certains combattants de Daesh avaient leurs propres véhicules. Notre convoi faisait 6 à 7 kilomètres de longueur.
Le porte-parole de la coalition explique qu'au terme de l'accord, les empreintes digitales des combattants devaient être prises pour éviter une fuite des étrangers. Mais il ajoute...
Je ne peux pas dire avec 100% de certitude que chaque combattant ait été identifié à son départ de Raqqa.
Difficile donc de savoir où exactement se trouvent aujourd'hui ces combattants.
Jean-Marie Ganou, il y avait des combattants du groupe État islamique français dans ce convoi, on l'a appris. C'est donc une menace pour la France. C'est un accord mal verrouillé?
De ce qu'on entend de ce reportage de la BBC, oui, très certainement. Moi, dans le principe, je pense qu'on doit pouvoir parler à tout le monde, y compris aux pires terroristes. Mais la manière dont on gère une négociation comme celle-là, évidemment, est essentielle. Et c'est ça un peu l'incohérence de la stratégie occidentale vis-à-vis de l'État islamique. C'est-à-dire qu'on l'écrase territorialement,
militairement.
Et puis on diffuse en réalité la menace vers d'autres, soit les combattants étrangers qui reviennent dans le pays d'où ils viennent, soit ils se déplacent, certains vont se déplacer peut-être vers la Libye, ils se déplacent vers la prochaine zone de faiblesse.
Jean-Marie Guéhenno, justement, quand la France dit on va éradiquer le terrorisme dans le Sahel, est-ce qu'elle ne s'illusionne pas et est-ce qu'elle n'est pas en train de l'éparpiller, en fait, beaucoup plus que de l'éradiquer?
Je crois que le terrorisme est une tactique et qu'on ne peut pas avoir une stratégie qui se définit comme l'opposition à une tactique.
Donc vous ne croyez pas à la guerre contre le terrorisme?
Je ne crois pas à la guerre contre le terrorisme. Je crois à la guerre contre les situations qui créent le terrorisme. Et là, il faut être clair, parce qu'évidemment, on vous répondra, vous voulez qu'il y ait du développement, de la richesse, etc. Mais ça, c'est à 20 ans. Et entre-temps, on a des gens qui menacent au Bataclan ou ailleurs. Et donc, on n'a pas 20 ans pour attendre. C'est vrai. Mais le terrorisme, par exemple, le terrorisme dans le Sahel, il se nourrit de crises politiques, il se nourrit de mouvements très locaux qui ont l'impression de ne pas être, pas seulement l'impression, qui voient la réalité, qui ne sont pas représentés dans les instances politiques et qui à un moment, du coup, rejoignent les mouvements terroristes. C'est cette action politique-là qui manque.
Et donc, qu'est-ce que vous pensez de l'argument mis en avant par les autorités françaises, comme l'ont fait les Américains aussi préalablement, de dire on intervient pour la sécurité des Français?
Je pense que dans certains cas, par exemple quand le Bamako au Mali. était menacé d'une attaque qui aurait fait s'effondrer le régime malien, je crois que là l'intervention française a été extrêmement utile, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des zones au fond de... Il fallait préempter le risque d'une prise de contrôle par des mouvements terroristes. Mais l'idée qu'on va régler les problèmes de terrorisme en France par la projection extérieure indéfinie des forces françaises, ça, j'ai de grands doutes sur cette stratégie.
Mais alors, est-ce qu'il faut rester ou pas? Puisqu'on disait, après la Libye, le défaut, c'était d'être parti. Et puis maintenant, après le Mali, le défaut, c'est d'être resté.
J'entends des militaires qui disent, enfin, je ne sais pas d'ailleurs si la formule est très appropriée pour une zone semi-désertique comme le Sahel, qu'il faut qu'on tond l'herbe de temps en temps, de telle manière qu'elle ne pousse pas et ne permette pas au mouvement terroriste de se réorganiser, de consolider leur implantation. Si c'est ça seulement la stratégie, ça ne peut pas marcher. Je crois que quand il y a une intervention militaire, comme il y en a eu une au Mali, il est très important que la pression politique se maintienne. Et effectivement, une fois que l'intervention militaire a eu lieu, les responsables politiques, ils ont senti le vent du boulet, ils se sentent en sécurité, donc la pression pour faire des réformes n'existe plus. Et donc si on a simplement une stratégie militaire, on a un pied du tabouret et pas les autres.
Jean-Marie Guéhenno, on va s'interrompre pour une courte pause et on se retrouve sur TV5 Monde et RFI dans quelques minutes. À tout de suite.
Radio France Internationale, il est 11h30 en temps universel, 12h30 à Paris.
Jean-Marie Guéhenot, merci d'être l'invité d'International sur TV5 Monde et RFI en partenariat avec le journal Le Monde. Alors, partons maintenant en Afrique, si vous voulez bien, avec ce voyage du nouveau secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui a effectué son premier voyage officiel en Centrafrique, avec à la clé le prolongement d'un an de la mission de paix de l'ONU, la MINUSCA, dans ce pays, renforcée de 900 militaires, ce qui fait au total un peu plus de 10 000 casques bleus depuis, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, depuis 2014, mais une situation sécuritaire qui est toujours extrêmement dégradée. Et la MINUSCA est même accusée de collusion, et voire de passivité face au groupe armé. Comment maintenir la paix quand c'est toujours la guerre? À quoi ça sert cette mission de la MINUSCA en Centrafrique?
Dans un nombre croissant de situations, l'ONU n'est pas dans des situations où il y a une paix à garder. Elle est dans une situation de demi-guerre, demi-paix. Et donc ça veut dire qu'elle doit se battre. Et les troupes qui viennent à l'ONU, en général, n'ont pas été
formées
pour se battre. Ou en tous les cas, c'est pas leur attente. Et ça pose un vrai problème à l'ONU, notamment quand, en plus, vous ajoutez une dimension de terrorisme, où là, ça suppose des capacités aussi bien de renseignement que de protection que la plupart des casques bleus n'ont pas. Et donc, les Nations Unies, là, évoluent en terrain inconnu. Dans le cas de la Centrafrique, c'est un pays où l'État s'est franchement effondré. D'ailleurs, c'est un acte d'accusation aussi bien pour la coopération internationale. Après des décennies qu'un État soit aussi fragile, c'est quand même, ça pose un problème. C'est un acte d'accusation pour les élites centrafricaines. Et donc l'ONU, elle est là pour essayer d'apporter un minimum de sécurité, parce que sans sécurité...
Juste de pallier au pire,
d'éviter que ça sombre dans l'anarchie, mais ça suppose des troupes mobiles, ça suppose des troupes qui soient prêtes à prendre des risques, et donc... ce qui n'est pas le cas, malheureusement.
Mais justement, Jean-Marie Guéhenot, vous mettiez l'accent sur le fait que, bon, il y a les casques bleus, ils sont là pour maintenir la sécurité quand il y en a une, mais c'est surtout qu'en fait, on a affaire à des États faillis. Est-ce que il faut pas, de temps en temps, et c'est une solution qu'on entend chez certains experts, décréter des mises sous tutelle de certains pays, et puis on les rebâtit, peut-être la tutelle des Nations Unies, justement, on les rebâtit, et puis ensuite, lorsqu'ils sont capables de voler de leurs propres ailes, on restitue la souveraineté.
C'est une question qu'on peut se poser effectivement pour des situations comme la Centrafrique, qu'on a pu se poser un moment pour Haïti.
Ça a été fait en Sierra Leone par les Britanniques.
Pas vraiment une mise sous tutelle. Ça a été fait un peu au Liberia avec un programme qui mettait sous tutelle internationale les recettes du Liberia. Je crois qu'il y a deux difficultés. Et ça a été fait certainement au Kosovo. Le Kosovo, ça, c'était sous administration internationale pendant des années. Je crois qu'il y a plusieurs difficultés. D'une part, on n'est pas dans un âge colonial ou néocolonial, et les Nations Unies, c'est peut-être un drapeau bleu qui gêne un peu moins qu'un drapeau national, mais malgré tout, vous avez une volonté des peuples de gérer leurs affaires, et donc des dirigeants politiques peuvent manipuler cette volonté contre la mise sous tutelle. L'autre problème, c'est que les Nations Unies n'ont pas vraiment la capacité de gérer des pays. Donc moi, je crois qu'il faut aller vers des situations, des solutions intermédiaires, où on met sous contrôle peut-être des recettes du pays, de telle manière qu'elles ne s'évaporent pas dans la corruption. Vous voyez une situation comme la Libye, par exemple, qui n'est pas un pays pauvre, qui est un pays de revenu intermédiaire. Il y avait plus de 150 milliards de réserves de la Banque centrale en 2011. Maintenant, il doit y avoir une soixantaine. Il y a une centaine de milliards qui se sont évaporés. Oui. Ça serait pas une mauvaise chose qu'il y ait une certaine supervision.
Un contrôle, oui, sur les
vous parliez,
financiers.
Oui, Jean-Marie Guéhenot, du fait que quelquefois les soldats de la paix arrivent dans des circonstances qu'ils ne peuvent pas maîtriser et pour lesquelles ils ne sont pas formés, etc. Mais il y a une crise majeure actuellement où il ne s'agit pas des casques bleus, mais d'un échec tout de même majeur de l'ONU. C'est en Birmanie, dans l'Arakane, où on a vu une épuration ethnique de grande ampleur se dérouler en 3 mois, avec ce problème qu'il y avait quand même du personnel onusien sur place qui aurait été capable de dire quelque chose. Comment vous expliquez ce silence, le fait qu'on n'ait pas laissé, même pas amené des experts aux bons endroits et fermer les yeux sur cette catastrophe, cette épuration ethnique?
Moi, je pense que les Nations Unies, quand elles ne peuvent pas agir, elles doivent au moins toujours dire la vérité. Ça, c'est le devoir minimal des Nations Unies.
Pourquoi ils ne l'ont pas fait?
Ça, il y a peut-être des questions. Je ne sais pas les détails de la situation.
C'est de la collusion avec le pouvoir. Enfin, c'est.
Je crois qu'il y a des dilemmes qui se posent aux Nations Unies dans des situations comme celle-là. Parce que d'un côté, on voit que une bonne partie des problèmes de la Birmanie, c'est d'avoir vécu dans l'isolement d'une dictature militaire pendant des décennies. Et donc, avant de prendre la décision, au fond, de replonger la Birmanie dans l'isolement, il faut y réfléchir à deux fois. Je pense que pour les responsables onusiens, c'est une question qu'ils doivent se poser. Est-ce qu'on va être parti d'un mouvement qui va mettre la Birmanie complètement en isolement et à ce moment-là, la Birmanie ou la majorité de la population, parce qu'il y a un problème de l'identité birmane. Est-ce que c'est une identité birmane? C'est une identité d'abord bouddhiste. Est-ce que la majorité de la population va se recroqueviller sur elle-même et être de plus en plus nationaliste dans un nationalisme chauvin? C'est pas quelque chose qu'on veut.
D'accord. Mais revenons, si vous voulez bien, Jean-Marie Guénaud, sur la Centrafrique, les soldats de l'ONU, les contingents onusiens, sont accusés en Centrafrique de viol. Hein, 145 cas d'abus sexuels. Les soldats français de l'opération Sangaris ont été eux aussi mis en cause. Il y a d'autres accusations contre des soldats des Nations Unies dans d'autres pays. Les condamnations en justice sont rares. Si ces viols, ces exactions ont lieu, c'est parce que les violeurs ont un sentiment d'impunité. Est-ce que l'ONU prend vraiment ses responsabilités?
L'ONU se bat contre ce fléau depuis des années. Moi-même, quand j'étais aux Nations Unies, j'étais confronté à des situations d'abus sexuels, notamment en République démocratique du Congo. Et je dois avouer, aujourd'hui, j'ai quitté mes fonctions il y a presque 10 ans. Et on a toujours ces questions-là. Donc c'est un échec.
C'est pour ça que je parle d'impunité pour les violeurs.
C'est un échec. Et je pense que cet échec, il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait que dans des situations comme la Centrafrique, où au fond les normes sociales se sont effondrées, le soldat est dans une position de force, de puissance, et donc le risque d'abus est toujours plus élevé. L'autre aspect des choses, c'est qu'on voit, j'avais vu des statistiques, par exemple, sur les condamnations pour crimes sexuels en Grande-Bretagne, un pays démocratique avec un système de justice, de police qui fonctionne, et le taux de condamnation est le plus faible pour les crimes sexuels, parce que c'est toujours très difficile pour toutes sortes de raisons évidentes, c'est toujours très difficile de produire les preuves, et donc, si vous transposez cette situation à un pays comme la Centrafrique, où la femme ne va pas pouvoir aller dans un dispensaire où elle sera traitée ou dans un poste de police où elle sera traitée avec respect, où il n'y aura pas de dispensaire où on puisse faire les analyses. Donc la condamnation criminelle est très difficile. Quand vous ajoutez à cela des contributeurs de troupes qui n'ont pas vraiment envie d'imposer la discipline nécessaire, vous avez les abus sexuels. Moi, je pense que la réponse à cela...
Ce n'est pas l'institution, l'ONU ne doit pas mettre en place une juridiction onusienne pour éviter que ce soit les pays, chacun, qui traite ses propres...
Alors, aucune armée du monde, en matière de discipline, ne veut perdre la maîtrise d'une cour martiale, c'est une cour nationale. Ce qui avait été proposé il y a plus de 10 ans par la personne qui est maintenant le haut-commissaire aux droits de l'homme, Zayed
Al-Hussein,
ça avait été d'avoir des cours martiales sur le terrain immédiates. Et vous heurtez à la résistance des contributeurs de troupes. Moi, je crois que l'ONU, quand il y a une situation où des abus sexuels sont commis, même si on ne sait pas si c'est tel ou tel soldat qui les a commis, il faut renvoyer l'unité purement et simplement. C'est une responsabilité de commandement. Parce que vous ne savez peut-être pas ce que chaque soldat fait à chaque heure de la journée, mais vous savez très bien s'il se passe des choses dans votre bataillon ou s'il s'en passe pas.
Et donc, il y aura plus beaucoup de soldats de la paix sur le terrain. Alors.
Il y en aura. Il y a eu des unités renvoyées, il n'y en a pas eu assez. Et le problème, évidemment, des Nations Unies aujourd'hui, c'est qu'il y a une demande de troupes énorme. Non. Et une offre limitée. Mais je pense que sans des mesures assez radicales de ce type, principe, on n'arrivera pas à battre ce fléau.
On a évoqué brièvement tout à l'heure la question de la Libye, hein. Ce pays qui a beaucoup de mal à reconstruire un état de droit où des milices se partagent des territoires. Vous avez montré du doigt, sans toujours les nommer, des pays comme la France ou l'Angleterre, hein, qui pour mettre fin au régime de Kadhafi ont permis ces interventions. Voici un document réalisé grâce à des journalistes américains. On regarde, on écoute.
500, 550.
Quelque part près de Tripoli, une vente aux enchères bat son plein.
650, 700.
Ce que ces journalistes qui filment discrètement découvrent est à peine croyable. Ce sont des êtres humains qui sont en train d'être vendus. Pour quelques centaines d'euros, un migrant africain vient d'être cédé à son nouveau propriétaire. Ces ventes de migrants, elles auraient lieu une à deux fois par mois, en toute discrétion, à l'extérieur de la capitale libyenne. Les reporters américains voulaient en avoir la preuve après avoir reçu une vidéo amateur en août dernier. Des hommes venus du Mali, du Niger, du Ghana.
Allons, des hommes forts pour travailler à la ferme.
Exhibés comme du bétail aux futurs acquéreurs.
400.
Et vendus sans vergogne aux mieux offrants.
700. 700, qui dit mieux ? Moi, 800.
Objet de tous les trafics par les passeurs, ces migrants africains qui rêvent d'Europe finissent bien souvent entassés dans ces camps de détention sordides. Certains affirment ici avoir été mis aux enchères pour travailler de force, soumis à des traitements inhumains.
Jean-Marie Guénoux, votre réaction à ce document qui porte la responsabilité de cette situation absolument terrifiante?
Quand il y a une dictature abominable comme celle de Saddam Hussein ou celle de Kadhafi, on s'imagine que si on enlève le couvercle de la dictature, il y a une société parfaite qui est prête à éclore. Et en réalité, plus la dictature a été épouvantable, dysfonctionnelle, plus la société en dessous est dysfonctionnelle. Et donc, moi, je crois qu'il y a une vraie responsabilité à avoir mis fin au régime de Kadhafi sans ensuite avoir fait l'effort politique de...
La responsabilité de qui ?
La responsabilité de pays comme la Grande-Bretagne, comme la France, qui ne se sont pas engagés dans la durée suffisamment après la chute de Kadhafi. C'est un phénomène qu'on voit souvent. On lance une opération militaire, parce que l'opération militaire, ça se contrôle, ça se maîtrise, et la politique, derrière, c'est beaucoup plus compliqué.
Jean-Marie Guénoux, alors, si je vous écoute bien, est-ce qu'il fallait renverser Kadhafi, ou est-ce qu'on n'est pas resté assez longtemps après? Vous pensez qu'on n'est pas resté longtemps assez longtemps après, mais il y a des gens qui disent que le mandat qui était... un mandat de protection des civils pendant la guerre civile libyenne a été outrepassé, que renverser Kadhafi ne faisait pas partie de la résolution qui était adoptée à l'époque.
C'est vrai, je crois que la résolution, elle a été un petit peu détournée de son objet. La difficulté de cette situation, c'est qu'au fond, Kadhafi était une menace sur sa population et qu'on pouvait pas maintenir une force indéfiniment qui taperait sur Kadhafi à chaque fois qu'il commettait des abus sur sa population. Donc je crois qu'une fois qu'on était engagé dans cette affaire, il y avait une dynamique qui conduisait à son renversement. Donc je pense que on peut se poser la question de savoir s'il fallait, au moment des menaces sur Benghazi, se lancer dans cela, pas réécrire l'histoire là-dessus. Mais ce qui est certain, c'est qu'après la chute de Kadhafi, au fond, on s'est désintéressé de la situation politique en Libye. Et la Libye, aujourd'hui, est un régime qui est... Enfin, un régime, c'est pas un régime. Est un territoire où des prédateurs profitent de l'absence d'État. Et sont heureux de l'absence d'État. Et ça, c'est une situation qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup de conflits.
Mais pour rester sur la Libye, alors, dans ces conditions-là, est-ce que vous estimez qu'on aurait aussi de lourdes responsabilités d'empêcher les gens de fuir ce territoire ? Est-ce qu'il est normal, maintenant, d'essayer de les bloquer là où ils sont ? Ces migrants qui arrivent jusqu'en Libye, est-ce que c'est normal de les refouler ?
Je pense que la seule solution à la question des migrants qui essayent de rejoindre l'Europe à partir de Libye, c'est que la Libye redevienne un pays d'accueil des migrants. Parce que quand vous voyez la Libye, vous avez des zones, vous avez toutes sortes de... J'étais à Tripoli en mai et en juin. Vous voyez des dizaines de grues, de chantiers de construction qui ont été interrompus en 2011 et qui sont figés. Et demain, la Libye peut être un pays d'opportunité pour beaucoup de migrants. Tant que vous n'aurez pas... En attendant, transformer la Méditerranée en une sorte de douve pour empêcher les migrants qui cherchent désespérément un avenir meilleur à rejoindre l'Europe, je pense que c'est une situation à la fois inhumaine et irréaliste. Parce que quand vous bloquez quelque part, on a bloqué en mer Égée, ça s'est déplacé vers la Libye, on bloquera en Libye, ça se déplacera vers ailleurs. L'Europe ne va pas s'entourer d'un mur comme celui qui séparait l'Allemagne de l'Est de l'Allemagne de l'Ouest pendant la guerre froide. C'est inhumain, ça n'est pas nos valeurs et ça ne marchera pas.
Alors, poursuivons cet entretien, Jean-Marie Guano, avec ce qui se passe au Liban. Le Premier ministre libanais, Saad Hariri, est arrivé en France hier. Il avait démissionné le 4 novembre depuis Riyad, la capitale saoudienne, pour dénoncer les ingérences de l'Iran au Liban. Il y a eu tous ces questionnements sur sa liberté de mouvement, notamment. On l'écoute hier dans la cour de l'Élysée.
Je remercie le président Emmanuel Macron pour son soutien. Il a fait preuve d'une amitié infaillible et cela, je ne l'oublierai jamais. La France a montré encore une fois la grandeur de son rôle dans le monde et et la région. Elle prouve son attachement au Liban et à sa stabilité.
La France joue bien dans cette affaire libanaise. L'Iran accuse Paris d'ajouter à la crise. Que dites-vous, vous, de la position de la France dans cette affaire? Et est-ce que c'est une volonté de leadership risquée?
Il n'y a pas de leadership sans risque. Et donc, évidemment, la France prend des risques en s'engageant au Liban. Mais je crois qu'elle joue bien et que la France est bien placée au Moyen-Orient. Parce qu'elle a des très bonnes relations avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats. Donc là, elle peut avoir un certain capital d'influence. En même temps, vis-à-vis de l'Iran, l'Iran critique la position de la France accueillant Hariri. Mais l'Iran a bien besoin de la France pour défendre l'accord nucléaire.
Face aux États-Unis.
Et donc la France peut parler à l'Iran aussi. Et si on veut sauver la stabilité du Liban, il faut protéger, je dirais, les ambiguïtés libanaises. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut regretter qu'il y ait un mouvement armé comme le Hezbollah qui contrôle une partie du territoire libanais, en particulier le sud, long de la frontière avec Israël. Mais si demain on essaye d'éliminer le Hezbollah, on rouvre la guerre. Donc il faut trouver une situation d'équilibre où le Hezbollah ne continue pas de gagner du terrain, mais en même temps, il n'est pas réaliste de penser l'imaginer. Il faut trouver des compromis au Liban. C'est la seule manière dont le pays peut éviter de retomber dans la guerre.
Jean-Marie Guéno, derrière toute cette affaire Hariri, Liban, etc., il y a la rivalité, voire la guerre froide, entre Arabie Saoudite et Iran. D'un côté, l'Arabie Saoudite dit l'Iran va trop loin, pousse son avantage chez les Arabes, au Yémen, au Liban, en Syrie, en Irak, etc. Qui a raison dans cette querelle? Est-ce que les Saoudiens sont fondés à dire que, après tout, les Iraniens sont en train d'envahir la moitié du monde arabe? Ou est-ce que c'est l'Iran qui a raison, c'est une force de stabilité, on va pas dire de paix, mais de stabilité, et les Saoudiens provoquent tout un tas de conflits partout, au Yémen, au Liban, en destituant Hariri, etc. Qui a raison?
Dans ces situations-là, personne n'a raison. L'Iran a profité des erreurs de l'Occident. L'Iran a reçu un cadeau magnifique de l'administration Bush quand Saddam Hussein a été déposé. Donc l'Iran a aujourd'hui une influence en Irak qui est la plus grande qu'il ait eue depuis...
Je vais le reformuler autrement. Qui est le plus grand danger aujourd'hui pour la stabilité du Proche-Orient et du monde? L'Iran ou l'Arabie Saoudite? L'Iran avec son espèce de montée en puissance méthodique, complètement cynique, ou bien l'Arabie Saoudite avec ses foucades qui lancent des conflits un peu partout, au Qatar, au Yémen, au Liban?
Je crois qu'il y a un risque un peu d'hubris, si je puis dire, de l'Iran, parce qu'il a eu beaucoup de succès. aujourd'hui, on le voit quand même très présent en Syrie. On en parlait tout à l'heure. C'est quand même assez dangereux parce que la Syrie, c'est un pays à majorité sunnite. Hein. Les Alaouites eux-mêmes sont pas vraiment des chiites. Donc cette idée que vous allez avoir une paix durable en Syrie, assise sur une petite minorité du pays, ça n'est pas réaliste. L'Iran pousse son avantage. Le Liban est important pour lui parce que c'est le moyen de mettre la pression sur Israël. Et donc c'est un ticket d'entrée dans le monde arabe en étant un symbole de la lutte contre Israël. Donc vous avez une puissance qui garde un certain caractère révolutionnaire dans la région. Et vous avez une puissance, l'Arabie saoudite, qui est conservatrice, mais en même temps qui veut avoir une diplomatie de mouvement et qui ne se lance sans toujours mesurer les conséquences de ses actes. Je pense que sur le Qatar, puisque les Saoudiens se sont aussi lancés contre le Qatar, ils espéraient qu'ils allaient pouvoir retourner le Qatar comme une crêpe. Ça ne s'est pas passé. Sur le Liban, maintenant, on voit que c'est un peu un pas de clair. Sur le Yémen, ils se sont lancés dans une opération, alors que le Yémen, au départ, était un conflit d'abord yéménite, purement yéménite. Ils l'ont internationalisé. Donc je crois qu'aujourd'hui, on ne fera pas la paix en disant aux Iraniens, vous avez tort, ou aux Saoudiens, vous avez tort. On fera la paix s'il y a une possibilité avec des puissances tierces, comme les États-Unis et comme les Européens, s'ils agissent de façon coordonnée, de donner des réassurances aux deux côtés. Parce que les deux côtés ont un sentiment profond de leur vulnérabilité.
Jean-Marie Ganos, vous parlez du Yémen. Alors justement, là, il y a trois agences onusiennes qui dénoncent une crise humanitaire sans précédent dans ce pays. 400 000 enfants pourraient être menacés de mort. Et la communauté internationale ne dit rien sur le Yémen. Pourquoi ? C'est pour ménager l'Arabie saoudite ?
C'est un mélange de sentiments d'impuissance et de volonté de ménager effectivement les pays puissants et riches. Et la crise humanitaire au Yémen, c'est aussi une crise. Il y a des responsabilités aussi des Houthis qui ont mis le siège de Taïz. Et ça, c'est aussi. Chacun aujourd'hui utilise les populations civiles comme des otages.
Si l'Arabie saoudite aussi ne se gêne pas en ce moment pour bombarder au Yémen et ne met pas trop de gants, si on peut dire. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a une sorte de licence donnée par les États-Unis ou vraiment donc d'où cet hubris saoudien
la France maintenant qui
suit aussi finalement Trump sur ce dossier.
Je crois que ce qui est très frappant aujourd'hui, si on distingue Obama et Trump, c'est qu'Obama, il était l'artisan d'un certain repli américain, mais il comptait sur les structures régionales et internationales comme l'ONU pour combler ce repli. Trump, c'est le rapport de force pur. Et donc, vous assistez à un durcissement des relations régionales. Vous le voyez en Asie du Sud-Est. Vous le voyez au Moyen-Orient. C'est chacun pour soi. Et donc, il y a une sorte, effectivement, de feu vert à la brutalité des rapports de force qui est très, très dangereux pour la paix mondiale.
Donc, ces populations sont condamnées à mourir au Yémen ?
Je crois que tout le monde se rend compte au Yémen que c'est une impasse. C'est une guerre qui coûte aux Saoudiens, c'est une guerre qui coûte aux Émirats. Et c'est une guerre, encore une fois, où la solution est yéménite. Donc il y a peut-être là, je pense qu'il y a un jeu politique à mener par l'ONU. Mais pour que l'ONU puisse jouer ce jeu politique, il faut qu'elle ait le soutien et des Américains et des Russes. Et des Chinois qui deviennent un acteur dans la région. Si elle a ce soutien, elle peut permettre de sauver la face aux Saoudiens et aux Émiratis et de permettre une désescalade. Mais il faudrait aussi que les Iraniens prennent conscience que ils ont l'accord nucléaire. C'est un bon accord pour la région. Mais que disjoindre complètement l'accord nucléaire de l'action régionale n'est pas politiquement réaliste à moyen terme.
Merci beaucoup, Jean-Marie Guéhenot, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir apporté votre expertise, d'avoir répondu à nos questions. Merci Sophie, merci Christophe et merci à vous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.
RFI, Radio France Internationale. Now once upon a time you dressed so fine, to the bones of dime in your prime. Didn't you? People goes everywhere, I thought you'd buy the fall. Thought it was just all kidding you. And you used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud. But having a bee is grounding for your next meal. Hey, how does it feel? How does it feel to be on your own with no direction home? Like a complete unknown, just like a rolling stone.
Lonely, but you know you only used to get juiced in it. And nobody ever taught you how to live on the street. And now you find out you're gonna have to get